Moi, Philippiens 3, à partir du verset 8. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Puis voilà, à partir de là, les versets qui nous intéressent plus précisément aujourd'hui. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits ayant cette pensée, et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition, leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, frère bien-aimé, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Voilà, jusqu'ici cette lecture qui servira à la prédication. Mais avant le message, je vous invite encore à chanter un cantique. C'est le 173. Le 173. Voilà, je vous invite à avoir votre Bible ouverte si possible donc dans ce passage en Philippiens 3 à partir du verset 10 et jusqu'au début du chapitre 4, jusqu'au verset 1 du chapitre 4. Ce passage où Paul fait cette remarque extraordinaire, je trouve, étonnante, au verset 13. Regardez au verset 13. Paul écrit: Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours. Oubliant ce qui est en arrière. Comment est-ce qu'il peut dire une chose pareille? Comment est-ce que Paul peut si facilement oublier tout son passé, toutes ces choses sur lesquelles il a construit au fil des années? Vous serez sûrement d'accord avec moi pour dire que, dans une certaine mesure, et qu'on le veuille ou non, on est aujourd'hui ce qu'on est devenu, n'est-ce pas? On se construit sur le passé, sur nos souvenirs. C'est Sartre, Jean-Paul Sartre, qui disait, vous avez peut-être entendu une phrase de Sartre qui ressemble à celle-ci, il disait: L'homme n'est rien d'autre que son projet, il n'existe que dans la mesure où il se réalise, il n'est donc rien d'autre que l'ensemble de ses actes, rien d'autre que sa vie. Alors bien sûr, en tant que chrétien, on n'est pas d'accord avec cette affirmation de Sartre. L'homme n'est qu'en Dieu, il n'existe, il n'est ce qu'il est que par la grâce providentielle de Dieu. Mais il y a quand même une part de vérité dans ce qu'il dit, parce que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes devenus au fil du temps, parce qu'on est aujourd'hui ce que dans la providence de Dieu, on s'est construit au fil des années. On est, je pense qu'on peut le dire de cette manière-là, dans une certaine mesure gouverné par nos souvenirs. gouverné par le passé qui est le nôtre. Et ça peut être de différentes manières. On peut être dans la difficulté de couper avec notre passé, soit parce que le passé est rassurant, ça peut être une des raisons. Le passé, contrairement à l'avenir, c'est un espace connu, c'est un peu une bulle rassurante. Et la tentation, elle peut être forte pour nous parfois de rester sur nos acquis, de vivre sur des victoires passées, des réussites passées, par crainte de ce dont l'avenir pourrait être fait. Donc on peut être gouverné par le passé, soit parce que le passé est rassurant, ou soit parce qu'il est plutôt déplaisant, hein, à l'inverse, parce que certains souvenirs douloureux qu'on peut avoir ne veulent tout simplement pas s'en aller. Et certainement, vous savez ça encore bien mieux que moi, puisque vous avez, pour la plupart en tout cas, plus d'années de vie et d'expérience derrière vous. On peut être coincé dans une émotion, dans un sentiment vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un, que ce soit de la colère ou du ressentiment à cause de ce que quelqu'un nous a fait, ou de la honte à cause de quelque chose que nous avons fait. On peut être coincé comme ça dans le passé. Et rester prisonnier de son passé, ça peut être la preuve que certaines choses, du coup, n'ont pas été réglées. C'est peut-être un mot un peu trop fort, mais qu'un traumatisme n'a pas été digéré. On est donc, dans une certaine mesure, gouverné par nos souvenirs, par notre passé. Mais Paul, ici, il dit « oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours. » Oubliant ce qui est en arrière. Et quand il dit ça, il pense à tout. Toutes ces choses dont il a accepté de considérer la perte, comme on l'a vu au verset 8. C'est pour ça que j'ai commencé ma lecture un peu plus tôt, où Paul disait « même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » C'est tout, que ce soit ces choses dans son passé sur lesquelles il aurait pu baser sa confiance et sa sécurité, ses acquis, ses réussites passées, etc. Ou à l'inverse, ces souvenirs douloureux, ces regrets peut-être, qui étaient restés, on peut dire, comme marqués au fer rouge dans ses souvenirs. N'oubliez pas qu'avant de se convertir, il a quand même mis des chrétiens à mort. Essayez de vous imaginer comment est-ce qu'il devait, la relation qu'il devait entretenir avec son passé. C'était un passé lourd. Et donc la question pour nous ce matin, je crois, c'est comment est-ce que Paul a pu tirer un trait sur son passé pour dire, oubliant ce qui est en arrière, je fais une chose, je cours. C'est une question importante à se poser, d'autant plus si on veut suivre son exemple, comme Dieu nous y ordonne. On le voit au verset 15, on le voit au verset 16, et particulièrement au verset 17, où Paul dit « Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Donc c'est important, si on veut suivre son exemple, de se poser cette question et d'essayer d'y répondre. Comment est-ce que Paul a pu tirer un trait sur son passé? Et un théologien allemand qui s'appelle Heinrich Weinel nous met un tout petit peu sur la bonne piste, qui va nous aider à trouver la réponse. Il dit la chose suivante, écoutez bien. Il dit « Paul n'a pas passé sa vie à enterrer l'homme mort décédé sur la route de Damas, donc lors de sa conversion, ou en commémorant sa mémoire en versant d'abondantes larmes. Mais c'est une fois pour toutes qu'il s'est détourné de lui avec assurance, afin que la vie nouvelle qui avait d'ores et déjà fait sa demeure en lui ait de la place pour grandir jusque dans la gloire éternelle. » Donc, comment est-ce que Paul a pu tirer un trait sur son passé? J'aimerais qu'on réponde à cette question en deux temps. On l'a vu, Paul nous incite à courir. Il nous rappelle que la vie chrétienne, c'est une course. Donc j'aimerais tout d'abord qu'on voit le déroulement de la course. Ce sera la première partie. Et puis deuxièmement, la ligne d'arrivée. Ce sera ma deuxième partie. Donc tout d'abord, le déroulement de la course. Je ne sais pas si vous avez regardé le Tour de France cette semaine. Il y a peut-être que moi que ça intéresse, mais... Bon, ça ne m'intéresse pas beaucoup pour le moment, ils ne sont pas encore dans les Alpes ou dans les Pyrénées, mais vous serez d'accord avec moi, il y a un déroulement de la course qui est assez simple, assez réglé. Vous avez les sprinteurs qui se battent en fin d'étape, lors des finales d'étape, pour récupérer des points, avoir le maillot vert. Ceux qui veulent avoir le maillot blanc à pois rouge, hein, les grimpeurs, dès que ça monte un peu, ils accélèrent le rythme pour aller récupérer quelques points au sommet. Et puis, dans chaque équipe, vous avez ces équipiers qui font la course pas tellement dans le but de la gagner, mais simplement pour aider, pour travailler pour que leur leader peut-être puisse avoir le maillot jaune. Enfin, il n'y a pas de grande surprise, il y a un déroulement de la course. Et Paul, qui nous indique donc que la vie chrétienne est une course, il nous en indique le déroulement au verset 10, et c'est vraiment le verset clé pour nous ce matin. Il dit « Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » La vie chrétienne, elle peut se résumer, comme Paul le fait ici, au simple fait de connaître Christ. « Mon but est de le connaître, lui. » Alors pour nous, lorsqu'on parle de connaître quelque chose ou quelqu'un, on pense généralement plutôt à une connaissance purement rationnelle. Mais cette expression qui est dérivée de l'Ancien Testament, elle est beaucoup plus englobante que ça. Hein, elle parle d'une union intime, d'une intimité personnelle. Vous vous rappelez peut-être ces expressions dans l'Ancien Testament, on apprend que Adam connut sa femme Ève, qui fait référence à l'union conjugale. Donc, du coup, lorsque Paul dit ici qu'il veut connaître Jésus-Christ, il parle de son souhait de vivre dans une union la plus intime, la plus proche, la plus profonde possible avec Jésus-Christ. Une union avec Christ, donc, dans sa résurrection et dans ses souffrances, puisqu'il dit de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Mais juste avant d'en venir à ces deux aspects qui décrivent pour nous le déroulement de la course pour le chrétien dans cette vie, il nous faut juste comprendre de quel type d'union on parle quand on parle d'union avec Christ. De quel type d'union est-ce qu'on parle ? Alors je vais juste vous le dire en une phrase et puis ensuite je vais l'expliquer, d'accord ? L'union du croyant avec Christ n'est ni ontologique, ni éthique, mais mystique. Je vais vous répéter ça et puis je l'explique. C'est des mots très compliqués, mais en fait c'est très simple. C'était juste pour l'avoir en une phrase. L'union du croyant avec Christ n'est ni ontologique, ni éthique, mais mystique. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? L'union du croyant avec Christ n'est pas ontologique. Ce que je veux simplement dire avec ça, c'est qu'en devenant chrétien, on ne devient pas un seul être, une seule personne avec Christ. Hein ? On ne cesse pas d'être humain pour devenir Dieu, comme si on était des ingrédients qui étaient incorporés dans une espèce de grande soupe ontologique qui était mixée, on était tous mixés ensemble. Un peu comme les religions orientales, d'ailleurs, le disent, hein, le bouddhisme qui affirme que tout est un et que le but ultime, finalement, de l'homme, c'est de renouer avec cette unité et de se perdre dans une masse cosmique, de devenir un être avec le tout. L'union du croyant avec Christ, c'est pas du tout ça. On ne perd pas notre personnalité comme si on était des ingrédients dans une grande soupe mélangée. Donc l'union du croyant en Christ n'est pas ontologique, elle n'est pas éthique non plus. Et ce que je veux dire par là, c'est simplement qu'on n'est pas uni à Christ dans le sens qu'on partage ses valeurs ou qu'on s'identifie simplement à sa cause. C'est beaucoup plus que ça. L'union du croyant avec Christ est mystique, ou si vous préférez, on pourrait dire spirituelle. Dans le sens de par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le croyant est uni à Christ par le lien vivant du Saint-Esprit. Alors comment est-ce que j'en arrive là ? Eh bien, parce que cette union avec Christ se fait premièrement, donc, on le voit au verset 10, dans sa résurrection, par la puissance de sa résurrection. Et cette puissance, eh bien, c'est celle du Saint-Esprit, tout simplement. On le voit par exemple en 1 Corinthiens 15, si vous voulez juste tourner avec moi à 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, les versets 42 et suivants. On voit que cette puissance de la résurrection, c'est la puissance du Saint-Esprit, justement. 1 Corinthiens 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, est devenu un être vivant, et le dernier Adam, donc Jésus-Christ, par sa résurrection, est devenu un esprit vivifiant. Vous voyez, par sa résurrection et son ascension, et c'est bien tout le sens de la Pentecôte, Christ est devenu le donateur, ou on pourrait dire le dispensateur du Saint-Esprit, qui nous unit à lui et qui nous permet de participer à sa vie nouvelle. Si vous voulez, on peut le dire comme ça, la résurrection, c'est à la fois un fait objectif externe qui a eu lieu une fois pour toutes, Jésus-Christ est ressuscité une fois pour toutes, et un fait subjectif interne, une transformation progressive et continuelle en chacun de nous qui avons été unis à Jésus-Christ par son esprit, une vie nouvelle. Et comprendre ça, je crois franchement que ça transforme la relation qu'on entretient avec notre passé. Pourquoi ? Parce que cette vie nouvelle, cette nature régénérée par l'esprit et qui est la nôtre en Christ, c'est cette vie éternelle dont il a été question tout à l'heure lorsqu'on a lu ce passage en 1 Jean 5. Cette vie éternelle, c'est la même vie, la même que nous aurons pour l'éternité. Et je ne sais pas, vous avez peut-être des regrets quand vous regardez en arrière, ces choses qui n'ont peut-être pas été réglées, qui vous pourchassent peut-être encore. Il nous arrive d'avoir des regrets. Pourquoi ? Parce que on se dit, voilà, on a une seule vie. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas rattraper les choses qui ont été faites. On sait bien que ce n'est pas comme dans les jeux vidéo où il y a plusieurs vies, plusieurs essais, on peut recommencer autant de fois qu'on veut. On n'a qu'une seule vie. Mais contrairement à ce qu'on pense, la seule vie qu'on a, c'est celle qu'on a en Christ. La seule vie que vous avez, ce n'est pas celle qui a commencé à votre naissance, dans la clinique où vous êtes né, mais c'est celle qui a commencé à votre conversion. C'est ça la seule vie qu'on a, et qui se déploie jusque dans l'éternité. Alors, toutes ces choses que je regrette, que j'aurais voulu faire différemment, par exemple, ces choses que j'ai peut-être dites à quelqu'un, et que j'aimerais tellement pouvoir retirer, que j'aimerais tellement pouvoir reprendre, on pourrait donner d'autres exemples, mais ces choses qui sont hors d'atteinte parce qu'elles sont dans mes souvenirs, sans dire qu'elles sont faciles à oublier, mais elles ne devraient pas gouverner ma vie présente parce que c'est le futur qui gouverne ma vie présente. Un futur qui a déjà investi notre monde par la résurrection de Christ et qui continue de se déployer encore, toujours, dans cette vie nouvelle et éternelle que nous vivons en tant que chrétiens par l'Esprit. Mon but est de le connaître lui ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. C'est le deuxième élément. Paul savait que cette union avec Christ dans sa résurrection, elle se faisait dans la douleur. Que jusqu'à la ligne d'arrivée, on verra tout à l'heure ce que c'est, le déroulement de la course, la vie chrétienne, c'est une vie d'union avec Christ dans ses souffrances. Alors, pour nous qui sommes chrétiens au XXIe siècle, en Occident, et qui expérimentons une certaine paix, qui ne sommes pas exposés aux mêmes dangers que Paul, par exemple, ou que certains chrétiens aujourd'hui encore ailleurs dans d'autres pays, il ne faut pas qu'on se sente exclu de cette réalité ou tenu à l'écart de cette réalité, de cette communion aux souffrances de Christ. Parce que communier, participer aux souffrances de Christ, ça a un sens beaucoup plus large que simplement les persécutions physiques et violentes qu'on peut connaître en tant que chrétien, et que certains chrétiens connaissent aujourd'hui. Les frustrations, les déceptions, les découragements, qui sont liés au simple fait de vivre unis à Christ, mais dans un monde touché par la chute et perverti par le péché, en font partie. Je vais peut-être être un peu plus précis, mais quand notre existence vécue dans ce monde qui est sous la malédiction du péché, et dans ce corps mortel, faible et en proie à la tentation, quand notre existence est vécue non pas tolérée stoïquement, mais supportée par amour pour Christ et vécue à son service, alors on peut réellement dire qu'on participe aux souffrances de Christ. Et du coup, vous voyez, c'est quelque chose de quotidien en fait. Ça se vit dans les frustrations et les découragements quotidiens qu'on peut connaître en tant que chrétien. Mais il y a une grande différence entre les souffrances de Christ et les nôtres. Il y a une grande différence parce que pour Christ, il n'y avait pas de communion dans les souffrances. Seulement l'indifférence aveugle de ses disciples, tous ses disciples. Et on n'aurait pas été différent. L'indifférence aveugle tout au long du parcours jusqu'à leur fuite dans quelques heures seulement avant la croix. Il n'y avait pas de communion dans les souffrances pour Christ. Encore moins lorsqu'il s'est retrouvé seul, pendu au bois, abandonné par son Père et livré à la colère de Dieu. Vous voyez, il y a une grande différence entre les souffrances de Christ et nos souffrances pour Christ, notre participation à ces souffrances. Dans nos souffrances pour Christ, nous participons à la vie et à la puissance de notre Sauveur. On vit, on expérimente l'intimité et la communion avec lui parce que nous vivons ce qu'il a vécu, tout simplement. Lui qui a été un homme de douleur, habitué à la souffrance, brisé pour nos péchés. Ésaïe 53. Et vous voyez, du coup, je crois que quand on a compris ça, on ne peut pas se réfugier dans le passé comme une bulle rassurante, vivre sur nos acquis par crainte de ce que l'avenir peut réserver. Parce que le refuge ne se trouve pas dans le passé. Notre refuge ne se trouve pas dans le passé, il se trouve dans la marche en avant, dans la course en avant. La course parfois douloureuse en avant. Parce que c'est là que se trouve notre Sauveur. Dans la douleur, dans les frustrations qu'il a connues et que nous connaissons aussi et par lesquelles nous sommes en communion avec lui. Alors voilà, en quelques mots, le déroulement de la course. La vie chrétienne, c'est une vie d'union avec Christ dans sa vie et dans sa mort, dans sa résurrection et dans ses souffrances. Plus rapidement maintenant, j'aimerais qu'on regarde à la ligne d'arrivée. Regardez le verset 14. On est en Philippiens 3, toujours, verset 14. Paul dit, je cours, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Et ce prix, qu'est-ce que c'est? On va le voir tout à l'heure, c'est cette résurrection au dernier jour. Mais si vous me permettez juste de reprendre mon illustration du Tour de France, un coureur qui a son nez dans le guidon ou qui regarde sans arrêt en arrière, il n'a absolument aucune chance de gagner. En fait, c'est plutôt le contraire. Il a toutes les chances de, puisqu'il ne voit pas ce qui se passe devant lui, de chuter et de se retrouver sur le bord de la route, abandonné, et de même pas pouvoir terminer la course. C'est seulement, enfin, pour gagner, pour passer la ligne d'arrivée en vainqueur, il faut avoir les regards fixés vers l'avant, vers le but. Et c'est ce que Paul fait ici. Après nous avoir expliqué le déroulement de la course, il nous encourage à fixer nos regards sur la ligne d'arrivée. Regardez les versets 10 et 11, encore une fois. Où il dit, mon but est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Voilà, c'est ça le prix, le but, la résurrection d'entre les morts. Mais si possible, pourquoi est-ce que Paul dit si possible ici quand il exprime son souhait de ressusciter d'entre les morts? Est-ce qu'il n'est pas sûr que les morts ressusciteront des morts, que les morts ressusciteront? Est-ce qu'il n'est pas sûr lui-même de persévérer peut-être et d'arriver au bout de la vie? Pourquoi est-ce qu'il dit si possible? Et je pense que c'est pour une raison assez simple. Si Paul semble hésitant ici, c'est pas parce qu'il doute de la résurrection des morts, mais c'est parce qu'il doute de sa mort à lui. Vous comprenez? Paul faisait partie de cette première génération des chrétiens qui était, on pourrait dire, convaincu, dur comme fer, que Christ allait revenir avant qu'il meure. Et on le voit très bien si vous tournez quelques pages en 1 Thessaloniciens 4, par exemple. En 1 Thessaloniciens 4, au verset 16. Paul montre qu'il ne s'attendait pas forcément à mourir, en fait. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Où il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. » Et puis il continue, il dit « Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Vous voyez, il me semble que lorsque Paul exprime son souhait de parvenir si possible à la résurrection des morts, son hésitation, là, elle est due à cette idée qu'il avait que Christ reviendrait probablement avant sa mort. Mais il ne doute pas un instant de la réalité d'une vie éternelle dans une nouvelle création, restaurée avec un corps ressuscité et glorieux. On le voit très bien parce que si vous revenez en Philippiens 3, il ne doute pas de la résurrection, au verset 20 et 21. Philippiens 3, verset 20, on voit bien que Paul n'hésite pas là du tout. Il dit « Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Vous voyez la certitude. Pour nous, notre cité est dans les cieux, de là nous attendons notre sauveur. Il n'y a pas d'hésitation. Quand on parle des cieux, notre cité est dans les cieux, on pense parfois peut-être à un lieu tout là-haut, avec des âmes désincarnées qui flottent sans fin. Mais dans la Bible, quand on parle du ciel, les cieux, c'est simplement pour décrire le lieu où Dieu se trouve, en fait. Et donc, il est tout à fait normal, quand on parle de chrétiens qui décèdent, de dire qu'ils s'en vont au ciel, simplement dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas la destination finale. Ce n'est pas la destination finale. Contrairement à la plupart des cantiques qu'on chante, vous pouvez faire un tour dans la Toile à Gloire après, où ce que les peintures qu'on peut voir dans nos musées semblent suggérer parfois, la scène finale dans la Bible, la scène finale dans l'Apocalypse, chapitre 20, chapitre 21, ce n'est pas des âmes désincarnées qui flottent en partant de la terre pour rejoindre un lieu appelé ciel, mais c'est la cité céleste qui descend sur cette terre. C'est ça la vision finale dans la Bible. Les cieux et la terre finalement un. Dieu parmi nous éternellement. Sur une nouvelle terre restaurée. C'est-à-dire délivrée de la malédiction du péché dans un corps ressuscité et glorieux, semblable au corps glorieux de Christ. C'est-à-dire libéré de ce corps mortel, humilié, comme Paul le décrit ici. Et encore une fois, voilà pourquoi Paul n'a pas passé sa vie à enterrer l'homme mort décédé sur la route de Damas, ou à pleurer son passé, à se commémorer son passé, et que nous pouvons dire avec lui, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours. Pourquoi ? Parce que nous sommes, nous, êtres humains unis en Christ, on est en route avec l'univers entier, vers une délivrance de la corruption, vers une renaissance, vers une résurrection réellement, que nous avons déjà commencé à expérimenter en nous par la puissance de l'Esprit. Mais vous voyez, on est dans ce mouvement-là qui nous dépasse. On peut dire un mouvement cosmique, où avec la création tout entière, vers un avenir glorieux. Alors, oubliant ce qui est en arrière, tendant vers ce qui est en avant, je cours. Puisque nous avons été saisis par Christ, courons pour saisir le prix. C'est ça que Dieu nous enseigne ici, les yeux fixés sur la ligne d'arrivée, c'est-à-dire en vivant d'ores et déjà cette vie ressuscitée, ici et maintenant, dans l'attente de recevoir des corps ressuscités. Juste avant de conclure, j'aimerais attirer votre attention sur un passage parallèle. Vous pouvez tourner, je crois, une page dans vos Bibles. C'est dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, à partir du verset 1. J'aimerais juste vous lire quelques versets. Vous allez voir, c'est très proche et ça nous aide un peu à comprendre ce que Paul dit. Donc, Colossiens 3, verset 1. Paul dit « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes mort, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » On a la même idée ici, vous voyez, c'est comme si on avait deux fils. Il y a le fil de notre existence condamnée dans le péché. Christ l'a, on pourrait dire, raccordé au fil de son existence en venant dans ce monde. Et ces fils, des fils entremêlés jusque dans la mort, à tel point qu'on peut réellement dire que nous sommes morts ce jour-là à Golgotha, morts au péché. Et des fils entrelacés, entremêlés dans sa résurrection aussi. Lorsque Christ est retourné vers son Père, le fil de notre destinée à nous, il l'a, on pourrait dire, rivé, amarré avec le sien au trône de Dieu. Et du coup, on peut réellement dire, il est juste de penser comme c'est écrit ici, que notre vie est cachée avec le Christ dans les cieux, en Dieu. Et que lorsque Christ reviendra, notre vie, c'est que nous vivons en fait déjà aujourd'hui par l'Esprit, par l'œuvre secrète de l'Esprit, notre vie paraîtra dans le sens où, ayant reçu un corps glorifié, nous pourrons vivre éternellement avec le Christ dans la gloire. Et c'est essentiel de comprendre ça. C'est essentiel de comprendre qu'il n'y a pas seulement un changement de statut quand on devient chrétien, mais un changement de vie. Particulièrement pour nous qui sommes protestants. Ce n'est pas comme si Dieu habillait le pécheur d'un espèce d'habit de justice, mais que la personne qui se trouve dessous, c'est toujours la même et qui est toujours dans le même état. Non, Dieu nous revêt d'un habit de justice. Oui, c'est la justification, un changement de statut qui ensuite reste le même. Justifié devant Dieu, c'est ce qu'on avait vu dans les premiers versets du chapitre 3 en Philippiens. Mais Dieu ne change pas seulement notre statut, il change notre vie. Et c'est grâce à ça, je crois, que nous pouvons réellement rejeter le passé qui nous gouverne, nos réussites, nos échecs, nos regrets, etc. Parce que un des plus grands obstacles, je le vois dans ma vie personnelle, au progrès dans la vie chrétienne, c'est de regarder en arrière. Parce que soit ça nous décourage, en voyant tout ce qu'on a déjà mal négocié, en voyant toutes les fois où on est déjà tombé dans les mêmes travers, on part défaitiste, on se dit mais à quoi ça sert même de lutter face à, quand on voit toutes les défaites qui ont jalonné notre parcours. Si j'ai déjà perdu la bataille d'avance, à quoi bon ? Donc, regardez en arrière, soit ça nous décourage, ou soit ça nous enfle d'orgueil, parce qu'on reste sur nos acquis, sur des victoires passées, sur des réussites passées, sans se rendre compte peut-être qu'aujourd'hui, on n'est même plus dans la course. Regardez en arrière, c'est oublier qu'en Christ, toutes choses sont réellement nouvelles et que notre vie, elle n'est pas derrière. Elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous, prête à être pleinement révélée lors de la venue de Christ. Et c'est pour ça que Paul poursuit ici, en Colossiens 3, en disant au verset 5, « Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. » Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche, etc. etc. Et en fait, ce serait intéressant de lire la fin du chapitre pour voir comment cette vie nouvelle transforme tout, pas seulement notre comportement moral, mais notre manière de travailler, notre manière d'être en société, notre manière de vivre en famille, etc., etc. Et c'est ce qu'on verra aussi la prochaine fois en regardant le chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens, qui deviendra beaucoup plus pratique sur comment cette vie nouvelle se déroule. Mais voilà, donc pour aujourd'hui, je m'arrête là. C'est à ça que Dieu nous invite, puisque nous avons été saisis par Christ, que nous sommes unis à lui, en lui, de courir pour saisir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Prions. Père éternel, nous te remercions parce que non seulement en Jésus-Christ, tu nous as permis de découvrir un sauveur qui nous a délivrés de nos péchés et de notre culpabilité devant toi, et qu'en lui, si nous plaçons notre foi en lui, nous sommes pleinement justifié devant toi. C'est un statut qui ne change pas, mais que Seigneur, tu as aussi changé notre vie. Tu nous as donné une vie nouvelle par ton esprit, tu nous as unis à Jésus-Christ et tu nous promets un avenir merveilleux, un avenir glorieux dans ta présence sur une nouvelle terre restaurée sous des nouveaux cieux, dans l'intimité éternelle avec toi. Et nous te remercions, Seigneur, pour cet encouragement ce matin, du coup, à courir, à persévérer dans la vie chrétienne, en mettant à mort le péché dans nos vies, en nous détournant de ce qui ne t'appartient pas pour vivre des vies qui te plaisent, que ce soit dans notre contexte familial, au travail, ou partout, que toute notre vie puisse servir à te plaire, que nous puissions réellement oublier ce qui est en arrière et courir pour saisir le prix. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter un dernier cantique et terminer notre temps de culte par le cantique 342. 342, ô joie immense infinie. Je vous invite à vous lever. Vous remarquerez que j'ai essayé de faire mon possible pour trouver des chants plus ou moins connus dans ce recueil. C'est l'ode à la joie, donc j'espère qu'on le connaît. Ô joie immense infinie qui nous remplit chaque jour, joie éternelle et bénie qui nous vient du Dieu d'amour. Quel bonheur Dieu nous fait grâce, il nous offre son pardon. Son secours est efficace, il nous comble par ses dons. Chantons l'amour insondable, l'amour parfait de Jésus. Disons sa grâce ineffable envers nous pécheurs perdus. Louons sa miséricorde, tous unis et d'un seul cœur. Oui, que notre amour déborde à la gloire du Sauveur. Toutes ses œuvres le ciel, la terre et la mer, les étoiles rayonnantes scintillant dans l'univers, les forêts et les campagnes, et le vent et les oiseaux. Les torrents de nos montagnes, ainsi que les clairs ruisseaux. À ce concert de louanges, il nous faut participer. Nous devons avec les anges nous courber pour adorer, proclamer de Dieu la gloire, la puissance et la splendeur, le bonheur et la victoire en Jésus notre Sauveur. Voilà, vous pouvez prendre place, le culte est terminé. Juste rapidement, deux, trois annonces. Tout d'abord, j'ai Skype avec David hier, donc il salue tout le monde. Il va bien et comme je vous l'ai dit, mercredi, il est dans cette église en Indiana, à Bremen. Si vous étiez là cet automne, on a eu le pasteur de cette église qui était venu prêcher ici. Si vous vous rappelez d'un Américain qui avait prêché en anglais. Donc David est dans cette église-là. Continuez de prier pour lui. Du coup, il a toute une semaine de conférences et de messages à donner. Sinon, encore la réunion de prière cette semaine, c'est la dernière fois qu'on l'aura jusqu'à fin août, donc réunion de prière mercredi. Et puis le culte dimanche prochain, et c'est Pierre qui va apporter la prédication, donc pensez à lui dans la prière. Voilà, c'est tout comme annonce, donc bon dimanche à chacun et bonne semaine. Oui, je vais essayer d'y penser.